Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Véronique Ternon Bruno, fondatrice de Mon Beau Savon. Bonjour Véronique.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous accueillir parce que là, voyez, chers auditeurs, c'est une belle histoire. Nous sommes rencontrés à la foire de Toulouse. Je suis passée devant son stand. J'ai fait un pas en avant, trois pas en arrière. Et normalement, on ne reste pas longtemps sur un stand. 45 minutes ensemble. Et je suis sûre que cette femme, Véronique Ternon Bruno, va vous séduire autant qu'elle m'a séduite. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots sur Mon Beau Savon, certes, mais il y a quand même un tracé extraordinaire qui vous a amené à vivre effectivement cette expérience pro.
Alors, je suis Véronique Ternon Bruno et j'ai créé ou fondé la marque Mon Beau Savon. Je fais des savons, des cosmétiques, des bougies, des produits autour de la salle de bain, autour du ménage de la maison et pour les animaux. Voilà, ça c'est
C'est fait. Déjà très extraordinaire voilà. Dans le schéma.
Et je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. Je n'ai pas du tout les codes de ce milieu-là. Je suis plutôt issue du bâtiment, où j'ai fait des études de bâtiment, bâtiment, génie civil. Voilà. Et la vie a fait que... Je suis un peu une touche à tout au niveau de mes loisirs créatifs. Mmh. En 2012, j'ai fait mon tout premier savon.
Alors attendez, oui. 2012. Alors, 2012. Juste pour rapport à ça, vous êtes restée combien de temps dans l'univers justement du génie civil et construction ? Juste au niveau des auditeurs, pour qu'ils comprennent le côté extraordinaire
alors, quand
de votre vie.
Je pars des études.
Combien de temps ?
Voilà. Donc des études grosso modo de l'âge de mes 18 ans. Et j'ai fini l'an dernier, ça fait
combien
un an.
Combien d'années donc au total ? Eh oui,
beaucoup.
16 années.
Ah
oui,
ça
au
c'est,
total.
C'est que le dernier emploi.
Et oui, donc vous
c'est
voyez,
que le dernier emploi.
C'est pour ça que cette
donc
notion
ça fait,
de temps...
Ça fait 30, ouais, plus de 30 ans que je suis dans le bâtiment.
Voilà. Donc, univers quand même qui n'est pas facile d'être intégré. Vous n'avez rien lâché.
Preuves.
Voilà, vous n'avez rien lâché et vous avez tout apporté par rapport à cela. Sachant qu'en plus, vous avez quand même travaillé déjà un peu, on va dire, dans le côté, si je puis me permettre, novateur, dans le côté humain des choses. Parce qu'il y a eu quand même, si je ne me trompe pas... toute la partie sécurité, effectivement, oui. Incendie, liée au handicap également. Enfin, il y a eu pas mal de choses sur lesquelles vous avez donc opéré, nous sommes d'accord.
Oui, oui, sécurité incendie, solidité, l'accessibilité handicapée, le classement étoile des hôtels mm-hmm. et de tout ce qui est hébergement touristique. Mm-hmm. Oui.
Et comment vous êtes affirmée justement dans cet univers ? Parce que pas simple, sans faire de grandes polémiques, mais c'est vrai que. Et qu'est-ce qui vous a séduit quand même ?
Alors, le hasard. Le
d'accord.
Hasard. J'avais envie d'une carrière plus dans la publicité. Mm-hmm. Et puis finalement, je n'ai pas pu y aller. Donc, je me suis, entre guillemets, rabattue sur le bâtiment. Et puis je me suis dit, j'y suis.
J'y reste.
C'est ça. J'y suis, j'y reste. Et puis j'ai avancé. J'ai monté les échelons un petit peu. Et puis voilà.
Un petit peu beaucoup. Vous avez été reconnue,
oui.
Crédible, vous êtes bien affirmée par rapport à cela. Et sur la façon de bosser en équipe, alors si je dis tout ça, c'est parce que là, maintenant, vous n'êtes pas forcément avec une équipe, donc ça change quand même le processus
ça change
et puis c'est l'entrepreneuriat. Mais en salariat, vous étiez avec une équipe de combien de personnes ?
Alors,
comment ça se passait ?
Généralement, il y avait un ingé qui chapeautait et puis on suivait les ordres de l'ingé. Mmh, mmh. Là, à la fin, j'ai eu, sur la partie classement des hébergements touristiques, j'ai eu à gérer jusqu'à 7-8 personnes. Et sur la partie bâtiment pur, donc sécurité, accessibilité, solidité, j'avais un ingé qui était chef, mm-hmm. mais en fait, je travaillais en autonomie. J'avais déjà une façon de travailler d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé comme si c'était ma société, même si ce n'était pas ma société.
Donc très impliquée, engagée, et en faire peut-être un peu plus qu'il
y a un peu trop.
Un peu trop, carrément.
Comparativement aux autres, oui, très certainement un peu trop.
Un peu trop. Et qu'est-ce qui vous a amené, parce que quand on est mis en place, et je le vois autour de nous tous, mais autour de moi en tout cas, sur le fait que, 30 ans dans un domaine, quand on va vers l'entrepreneuriat, c'est « non mais ça ne va pas, pourquoi tu quittes quelque chose ?»
Oui,
c'est installé.
Ça, oui,
comment
j'ai eu le droit.
Voilà, ça j'aimerais bien savoir en termes d'histoire humaine, parce que nos auditeurs, qu'ils soient Hoche, Cahors, Tarbes et autres, je pense vont se reconnaître au travers de cela. Mais comment vous avez pu contrer un peu ces avis, de dire « non, j'y vais, je vais me lancer ». Comment vous avez opéré cette passerelle?
Alors, ce sujet-là de « tu vas pas faire ça », j'ai eu droit sur la très proche famille, notamment ma mère. Parce que génération où ça fait peur, voilà.
D'accord.
Et puis protectrice, et puis ça fait peur. Mais je suis très soutenue par mon conjoint et par mes deux filles.
Ouais.
Mon conjoint est entrepreneur. Mmh. Il a fait la bascule il y a 7 ans, il y a même 8 ans. Mes deux filles sont salariées. Mais elles ont le même état d'esprit que moi.
Donc, le tempérament, l'énergie, la niaque.
Je ne serais pas étonnée que d'ici quelques années, elles fassent la bascule.
Bon, si vous nous entendez, allez-y.
Oui, ce n'est pas simple. Il faut quand même prendre en compte que ce n'est pas simple tous les jours.
Mais elles ont un repère, donc elles vont voir étape par étape. Mais c'est quand même bravo, en tout cas, sur effectivement face à ces trois personnes qui vous ont soutenu. Donc,
oui,
un bon
point de fort. On est vraiment un clan. Si je peux appeler ça comme
bien sûr,
ça. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a un questionnement, un souci, les trois autres sont là.
Ah, vous êtes très,
on est très
famille, vous êtes énormément dans l'échange.
On est beaucoup dans l'échange, beaucoup dans s'apporter quelque chose, parce que bizarrement, tous les quatre, on est différents, on a des compétences différentes, mais qui sont totalement cumulables.
D'accord.
Donc si un jour on crée une société tous les quatre ensemble, on serait les rois du pétrole.
si vous le dites, c'est que ça peut être dans les réflexions, son temps, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas simple, mais étape par étape, ça pourrait avoir effectivement
Il faut le réfléchir.
Réfléchir, ça aurait du sens, surtout si vous êtes complémentaire
totalement.
Par rapport à l'état d'esprit. Donc comment on décroche un univers dans lequel on est, la zone de confort, mine de rien, dans laquelle on est.
Le salariat, c'est
salaire,
la zone de confort.
Qui, mine de rien, je suis un peu provoqué, mais qu'on fasse bien ou mal son boulot, on sait que c'est là.
Voilà.
Pour vous, c'est plutôt d'en faire à 300% et bien. Mais comment, justement, on arrive à décrocher, se mettre
Alors,
dans cette réflexion-là
en premier. Ça a été tout doucement, on va dire. Donc, en 2012, j'ai fait mon premier savon. Révélation, c'est super de faire un savon. Et après, comme j'aime pas ce qui est trop simple, mais c'était pour moi personnellement, j'ai visionné tout un tas de vidéos sur des savonnières coréennes qui font des merveilles, sur des savonnières américaines ou québécoises ou canadiennes qui font aussi des choses parce que la réglementation est light pour eux, enfin plus que pour nous. Et du coup, je me suis amusée. Je faisais des savons avec des dessins à l'intérieur. Et puis, c'est en 2021, donc 2020, Covid, évidemment, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai eu je ne vais pas appeler ça un passage à vide. C'est-à-dire que au lieu de travailler 70 heures la semaine, pendant 3 semaines, quand tout le monde était confiné, j'ai travaillé 35 heures la semaine. Je me suis retrouvée avec un temps libre phénoménal où j'étais hyper perturbée parce que je ne savais pas que faire.
Vu
que je me concentrais en fait que sur mon travail et du coup c'était compliqué. Et quand on a repris le travail à 200%, un soir je suis rentrée à la maison en disant je ne m'y retrouve plus.
Mais ça veut dire quand même que pendant le Covid, qui n'était pas simple, je suis d'accord avec
vous. Moi, j'ai eu une pause à peine de 3 semaines où j'ai travaillé malgré tout. Et après, j'ai repris le travail.
Mais vous avez quand même poussé vous avez optimisé, on va dire ça comme ça, de cette première crise, on va dire, en 2020, pour ouvrir les yeux encore plus, apprendre, voir, réfléchir, poser, même si c'était en parallèle de votre travail, mais d'optimiser ce temps-là pour construire quelque chose dans un futur, parce que mine de rien...
Mais je ne l'avais pas déjà en prévision. C'est en rentrant un soir où je me suis dit que je ne m'y retrouvais plus dans ce travail de salariat, mais ce n'était pas conscientisé, en fait.
D'accord.
Et c'est mon conjoint qui m'a dit, mais ouvre une savonnerie.
Ah, donc, il y a une réflexion qui s'est mise en place.
Oui.
Et là, une fois de plus, un duo qui s'est mis en place.
C'est ça.
Et là, vos réflexions...
Et du coup, j'ai dit, oui, mais bon... Quand on ouvre une savonnerie, il faut un labo. Ça commence par des frais avant de pouvoir vendre.
C'est clair que là.
Donc, il m'a dit, mais pas de souci, moi je te le fais, le labo, il est bricoleur, c'est parfait. Donc j'ai dit, allez, banco. Banco, on y va.
Je vous le fais. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment la disponibilité. Mais vous, attendez, votre mari, là, c'est quand même une exception. Là, c'est de pouvoir être à l'écoute. Et d'être dans le même schéma et surtout d'être solidaire,
je dirais qu'il m'a rendu ce qu'il avait reçu, étant donné que quand lui il a basculé, j'ai été présente. Alors c'est pas du tout c'était pas du tout pensé comme ça.
Non.
Mais parce que
nous sommes une équipe, voilà.
Nous
oui et puis amour, mémoire, enfin affect, et de renvoyer cela aujourd'hui, c'est quand même je ne dis pas que ça n'existe plus, mais je dirais quand même que là, c'est quand même assez génial ce que vous êtes en train de dire et de transmettre, parce que je trouve que c'est un duo d'amour et d'échange qui est quand même assez génial par rapport à cela. Donc, au niveau de la savonnerie, oui. Donc, sachant quand même que c'est en 2012 que vous avez lancé les choses. Donc
c'est des savons juste pour le plaisir.
L'idée,
c'est vraiment
c'est en 2024 que vous avez lancé effectivement
En 2020, les du choses. Coup, je me suis posé des questions. En 2021, j'ai créé la savonnerie. Et j'étais donc en EI. Donc, j'étais sur la savonnerie les week-ends soir.
EI, là, les auditeurs.
Ah, pardon.
Oh non, mais vous n'êtes pas passionnant.
Une entreprise individuelle.
On réduit tout, donc vous inquiétez pas.
Une entreprise individuelle, donc le statut le plus simple, et quand on est salarié, le plus facile à ouvrir, fermer.
Mais alors justement, parce que le labo au niveau savonnerie, avec tout ce qui est écologie, etc., comment ça se crée? Comment ça se met en place, tout cela? Parce que moi, je n'y connais rien. Alors, j'ai acheté vos produits, j'en suis fan, mais... Comment on opère par rapport à ça ?
Alors, pour avoir le labo, vous faites d'abord un plan. Une marche en avant, comme pour la restauration. Hein. Mm-hmm. Donc là, j'arrive, je m'habille. J'ai après le lavabo pour pouvoir me laver les mains. Ensuite, j'ai la partie de fabrication. Ensuite, j'ai la zone de cure. J'ai la zone d'emballage. Enfin, vraiment, c'est la marche en avant.
De création. Comment vous créez
Le labo, on le dessine d'abord et on le fait valider. Alors, moi, maintenant, ça a changé, c'est la DGCRF, mais on le fait valider. De mon temps, c'était à la NSM.
L'Agence
nationale du médicament et de la santé. Okay. De la santé et du médicament. J'ai reçu un aval positif. Et ensuite, les recettes, les recettes que je faisais depuis 2012, pardon, je les notais. Je notais comment réagissait mon savon. Je notais si j'aimais bien l'odeur, si j'aimais bien parce que c'était tout doux. Enfin voilà. Donc, du coup, j'ai repris mes recettes et j'ai dit bon, voyons, quel était celui qui était le mieux, celui-ci. Ah, et puis celui-ci, il était bien aussi parce qu'il y avait ça. Et du coup, j'ai piqué certaines recettes que j'ai fait valider. Comme j'avais le retour, j'avais des années derrière, je ne vais pas dire 10 ans parce que c'était moins de 10 ans, mais j'avais des années de tests derrière, donc je savais comment réagissaient mes savons. Donc du coup, j'ai fait valider mes recettes par un évaluateur en sécurité toxicologique. Okay. C'est, ah oui, c'est une obligation.
Non, c'est pour ça, voilà. Parce que c'est vrai que sur le,
c'est très, en termes de c'est très réglementé, la cosmétique.
Ouais. Et en termes de matière, en quelques mots,
alors, en termes
elles
sont
de... à base de quoi? Parce que ça, c'est vrai que beaucoup, je pense, d'auditeurs vont se poser aussi la
alors,
question.
Beaucoup de personnes croient qu'un savon se fait avec du lait. Donc, mm-hmm. un savon ne se fait pas avec du lait, se fait avec des matières grasses. Et une lessive de soude caustique, pour un savon solide, je parle. Mm-hmm. Et du coup, on mélange ces deux matières, mmh. on émulsionne et on peut rajouter des additifs. Ça peut être du lait, ça peut être du miel, ça peut être du parfum, ça peut être plein de choses qui peuvent faire du bien à la peau, comme un marc de café, du curcuma.
Café.
Oui, pour faire un savon exfoliant, par exemple.
Ah oui, non, mais là, c'est ça qu'il faut que vous donniez aux auditeurs. Non, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque où c'est tous les produits naturels, le monde artisan, c'est pas que je le sublime, mais je suis fan, quoi. J'avoue que c'est effectivement mis en valeur et non reconnu pendant des années, et enfin mis en valeur. Et donc, là, justement, les produits naturels, comment vous mixez cela? Parce que moi, celui que je vous ai acheté, quand même, qui s'appelle Chantilly,
c'est,
pour
ça, c'est
une
la
normande
crème.
Que
oui.
je suis, j'en suis ravie par rapport à cela. Mais c'est quand même assez étonnant avec du karité. Donc, si vous pouvez expliquer en quelques mots, alors, quand même par rapport oui. à cela,
donc
les
la,
plus, quoi.
La chantilly, c'est une crème. Une crème pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour baume à mm-hmm. lèvres, pour les mains. C'est ce que j'appelle la crème à tout. Mm-hmm. Et alors, justement, mes cosmétiques sont uniquement avec des produits d'origine biologique. Mes savons, tout ce que je peux mettre d'origine biologique, je le mets d'origine biologique, même si je ne suis pas estampillée biologique. Mm-hmm. Et donc, la crème chantilly, elle va vous nourrir la peau. Mm-hmm. C'est un faux ami de dire qu'elle va hydrater, mm-hmm. mais la couche protectrice qu'elle va faire va limiter la déshydratation de la peau. Mais elle va vous hydrater la peau, elle va vous, pardon, vous voyez le lapsus, hein, elle va vous nourrir
soucis,
la peau,
pas de soucis.
Et vous allez avoir une peau qui sera plus douce, plus élastique, voilà.
Mm-hmm. Ah, ça, je vous confirme par rapport à cela. Mais c'est vrai que c'est complètement délirant de voir que tous ces produits-là, vous parlez de curcuma,
oui.
Je vais faire de l'humour aussi à 3 euros. Moi, curcuma, c'est la cuisine. Hein. Donc, comment vous êtes allé chercher? Est-ce que c'est au niveau interculture d'aller voir ce qui se passe et de les utiliser?
Il y a de ça. Et il y a aussi le fait que certains produits, on connaît leurs bienfaits. Mmh. Déjà, nos grands-mères les utilisaient. Mmh. Et le curcuma a une qualité qui est d'unifier le thème.
D'accord.
Donc, vous avez dans certaines cultures, quand les femmes se rasent, par exemple, mmh. ça fait de la surpigmentation. Donc, ça va aider... Je ne fais pas de produit miracle,
oh,
qu'on s'entende
non,
bien.
Non,
hein.
mais
ça va
c'est
aider.
C'est vraiment pour bien faire comprendre.
Voilà. Si vous avez un savon avec du curcuma mm-hmm. dedans, que vous nettoyez votre visage, mm-hmm. vous aurez un teint un peu plus unifié.
D'accord. Ah non, mais là, franchement, bravo. Alors maintenant, sur ça, au niveau de votre travail, parce que là, l'auditeur peut se dire, là, 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 mais qu'est-ce que c'est que cela? Vous êtes quand même ISO, c'est pour les rassurer aussi à ce niveau-là. Vous êtes ISO ou pas? Vous savez, la
non,
certification,
mais par contre,
parce qu'il y a une norme quand même sur laquelle vous êtes.
Oui.
C'est simplement pour leur préciser, parce que ça peut les amuser.
22...
Mais il y a une belle crédibilité de vos produits.
J'ai plus le nom de la norme en tête, mais 22-276, quelque chose
oui,
qui ressemble
716.
À ça.
22-716, on avait échangé.
Et alors, je suis obligée, pour pouvoir être savonnière et donc pour pouvoir avoir un établissement cosmétique, mm-hmm. de suivre cette réglementation. Et alors, je ne suis pas ISO, mais par contre, je suis les bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire que j'ai un livret dans lequel j'ai indiqué, par le menu, tout ce que je fais pour faire mes savons, pour faire mes cosmétiques.
Et comme ça, si vous êtes, on va dire, quelqu'un vient vous voir pour voir comment vous opérez, etc., vous êtes dans les normes.
Je suis dans les normes, je peux présenter tous les documents. Mm-hmm. Les recettes sont validées, les recettes sont enregistrées au Centre européen antipoison.
Voilà, c'est pour ça que je veux préciser voilà, ça, tout, parce que c'est important.
Oui, c'est, on ne fait pas dans sa cuisine un savon et on ne le vend pas sur le marché.
Merci de préciser voilà. À l'antenne. C'est parce que vraiment... ça, c'est important, parce que c'est un produit de fabrication, il y a
tout
quelque chose de bonne pratique qui est en place et c'est effectivement reconnu et bien évidemment dans les conditions sanitaires. C'est pour ça
oui,
que je voulais que vous le
tout
préciser.
À fait. Il y a vraiment des obligations, ce qui est tout à fait normal parce que pour la sécurité du client, de l'usager, c'est obligé qu'on suive ces règles-là. Mm-hmm. On ne peut pas y déroger.
Alors maintenant, dans la façon de travailler, donc sur la partie de, vous pouvez prétendre donc à un label bio. Maintenant, dans l'équipe, vous avez une jeune avec vous. Et là, à ce niveau-là, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que sur le côté génération, ça m'intéresse qu'il y ait un peu votre approche et qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cela, parce que là, il y a une belle interconnexion, je trouve.
Alors,
comment vous allez vous échanger, comment vous avancez, comment elle perçoit tout cela?
Dans l'équipe, j'ai Wissal depuis un mois et elle est encore là pendant un mois. Elle fait une L2, alors là, elle est en L2, donc formulation, parfum et cosmétique. L'an prochain, vu qu'elle a réussi ses résultats, elle aura la L2. La L3, pardon.
Yeah.
Et d'ailleurs, j'en profite, elle cherche une alternance. Si quelqu'un... c'est avec plaisir. Et franchement, je la conseille.
Okay.
Alors oui, on n'est pas de la même génération. Elle pourrait clairement être ma fille.
Mm-hmm.
Mais ça se passe super
justement,
bien.
Justement, voilà. Parce que sur le côté entrepreneuriat, elle peut avoir aussi une vision des produits en eux-mêmes, et puis l'énergie que ça représente tout de même, parce que professionnellement...
Ça prend énormément de temps d'expliquer, d'être là...
Et qu'elle, elle voit comment ça c'est, parce que l'écosystème bouge énormément, et il n'y a pas la même vision de leur part, ils sont quand même très moteurs, moi je vois il y a beaucoup de stéréotypes liés à nous deux, au niveau effectivement, voilà Seigneur, attention, oui, mais enfin, désolé, on peut encore avancer, mais en même temps, eux, de leur côté, de stéréotypes, ils ne sont pas forcément moteurs et pleins d'idées, alors que non, il ne faut pas unifier, quoi.
Mais justement...
Et comment ça se passe par rapport à cet ensemble?
Franchement, ça se passe super bien. Si le stage pouvait durer beaucoup plus longtemps...
Est-ce que c'est sur le côté digital où elle va vous appuyer pour faire le reconnaître? Parce que je précise aux auditeurs que vous êtes sur Instagram, donc
oui.
Mon Beau Savon, B.O. d'ailleurs,
B.O.
je le souligne. Et comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, ce n'est pas sur le côté digital. Non, vraiment, elle fait un stage qui correspond à ce qu'elle a besoin de faire pour son diplôme.
Donc, de cosmétique.
Donc, on fait de la cosmétique. On fait de... Là, à l'heure actuelle, elle est capable de monter sa savonnerie parce qu'on a fait toute la partie réglementaire, toute la partie production. Je ne l'ai pas épargnée dès le... Alors, j'ai commencé par les savons les plus simples. Mais on a tout de suite fait des savons... en grande quantité et non pas le petit savon d'un kilo ou de 500 grammes. Et autant elle a appris, je pense, pour les savons, autant elle m'apprend aussi parce que du coup, à partir du mois prochain, on va développer la partie plus cosmétique. Donc, on va faire plein
partie,
de tests.
Donc, on va dire vente, terrain, vente en ligne, vous le faites d'ailleurs?
Oui, je fais la vente en ligne.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, c'est sur ces points-là qu'elle va vous appuyer sur le côté relation client, vous voulez dire, de développer...
Non, développer des produits.
Ah, carrément,
comme
la création
comme
elle-même.
Est, voilà, comme elle est en formulation, je lui ai demandé de commencer être visionnaire sur certains produits. On a fait les achats des produits qui lui manquaient, des matières premières qui lui manquaient par rapport à ce que moi j'avais ou ce que je n'avais pas. Et à partir du mois prochain, on va pouvoir vraiment faire des tests, vraiment. Donc, on a une crème hydratante, il y a un eyeliner, il y a un anti-moustique. Enfin, voilà, il y a plein de
donc
choses.
Donc, c'est plus la partie...
Là, on est sur la production,
la
vraiment.
La production
oui.
Et maquillage.
Oui, tout à fait.
Oh, OK, donc c'est sur cette partie-là. Super.
Et vraiment, elle est... elle m'apporte plein d'idées sur des contenants qui seraient plus pratiques, sur des produits qui seraient plus intéressants.
Et vous, donc, vous êtes dans le Tarn et Garonne,
à Castelsarrasin.
Et donc, par rapport à cela, comment ça se, cette fabrication artisanale a été vue dans le Tarn et Garonne? Parce que c'est quand même nouveau. Je ne dis pas que l'innovation, attention, est dans le grand monde urbain, ce n'est pas ça. Mais ça se déplace. Moi, je crois énormément à tous ces départements que l'on a dans le sud-ouest, ou même, je vois chez moi là-haut, en Normandie. Ça se développe quand même. On s'éloigne des grandes villes. Mais comment ça a été perçu et lancé, écouté? Vous avez pas mal de personnes dans vos fidèles clients qui sont dans ces schémas, ou c'est différent? C'est pas...
Non, c'est vraiment... J'ai une clientèle plutôt, plutôt salariée, pas forcément d'entrepreneurs.
Et qui sont Tarn et Garonne, ou qui sont carrément ailleurs? Et c'est plutôt la vente en ligne qui...
J'ai vendu en Allemagne. Alors, comme sur mon site, on ne peut pas acheter et aller en Allemagne, la personne m'a envoyé un message, elle m'a dit « je voudrais ça, 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 ça et ça ». Donc, j'ai fait le devis avec le transport, voilà. J'ai vendu au Canada.
Hey.
Oui, quand même. En Belgique.
Et comment vous êtes fait connaître? C'est le site web qui a fait le lien, ou non, c'est vous
non,
qui avez opéré sur des événements
particuliers? Franchement, le site web n'est pas celui qui me fait le plus fonctionner, même si là, ça y est, ça commence à se réveiller. Mais ça a commencé à être plutôt du bouche à oreille. Et les personnes qui sont satisfaites de mes produits, qui reviennent vers moi, qui me disent « Pour Noël, j'offre vos produits à toute la famille,
alors, je veux bien, je veux bien, mais là, il y a quelque chose qui m'interpelle.
Oui.
Et certainement les auditeurs aussi. Vous dites l'Allemagne et le Québec. Comment vous les avez captés, là?
Parce que un marché artisanal d'été dans une ville touristique.
Oh.
Et que les personnes m'ont vu là, qu'elles ont acheté un produit pour tester, puis finalement, qui ont adoré, qui sont devenues fans.
Alors, quand vous dites, est-ce que c'est Foire de Toulouse, l'effet de levier, ou c'est un autre moment dans le Tarn-et-Garonne?
Non, d'autres moments. Alors, oui, c'est dans le Tarn-et-Garonne et dans le 31 aussi. Oui, oui.
Ok, mais c'est sur un événement, c'est
des événements,
c'est l'office du tourisme, j'imagine.
Des foires artisanales.
Donc, là, ce que je disais tout à l'heure sur le côté urbain, ok, mais sur le fait d'être donc en plus petite, on va dire, collectivité, ça bouge énormément.
Oui, ça
bouge. C'est très créatif.
Tout à fait.
Et donc, cette tendance, qui est plus qu'une tendance, qui est réelle dans le sens économique des choses et la vie des personnes, influence énormément.
Oui.
OK.
Après, je bouge aussi beaucoup. Je fais tout le sud, je vais appeler ça tout le grand sud-ouest. Je suis allée jusqu'à Mandelieu.
Ah oui, c'est carrément sud, là, c'est
là. Voilà, jusque la Teste de Buch. Voilà, donc je bouge pas mal, je fais de gros événements.
Et le Nord, pour remonter un peu, non.
J'ai un mari normand, donc il y a des chances que je monte.
Oui. Ah bah alors là, attendez, donc là sur ça, sur le côté normand, parce que franchement, de ce que vous faites peut complètement intéresser, complètement les intéresser, et de pouvoir effectivement ouvrir le jeu. Mais
oui,
en tout cas, bravo
oui.
pour le Québec et toute la partie donc sur les réalisations jusqu'à Mandelieu. Vous êtes plutôt effectivement active. Alors là, ce qui m'intéresserait, parce que malheureusement, on va arriver un peu vers la fin, sur ce monde artisanat, justement, qui se développe beaucoup. Vous pensez que c'est... tout à l'heure, on parlait de tendance. Et je disais que, justement, pour moi, ça va rester vraiment, au contraire, un futur. Vous allez dans ce sens-là aussi? Vous pensez que ça change? Parce que toute cette partie artisanale, qui peut être florale, qui peut être même le parfum en lui-même, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous pensez que c'est un peu notre futur, maintenant?
J'ai l'impression que de plus en plus de personnes salariées ambitionnent, sans forcément passer le pas, mais ambitionnent justement de se mettre à leur compte.
Ah, vous parlez sous deux aspects. Moi, c'est consommateur.
Ah, par rapport au consommateur,
ça me va très bien ce que vous dites. Consommateur, ça va dans cette direction, mais ça veut dire aussi parallèlement d'entrepreneuriat à ce niveau. Si les gens changent de métier, ce serait cette direction
artisanale. Il y en a de plus en plus. Et par rapport aux consommateurs, si on revient là-dessus, il ne faut pas oublier que le produit artisanal est vraiment un produit fait localement. Ce n'est pas du Made in China, ce n'est pas fait en grande quantité, mais il y a de la qualité. Donc, ça a un prix. Donc, il faudrait que ce soit le futur, mais malheureusement, la vie fait que c'est compliqué pour les gens de dépenser, si on peut appeler ça dépenser. C'est vrai qu'ils vont s'y prendre. Si je prends l'exemple d'un savon saponifié à froid, ça va laver, mais ça va éviter aussi pour beaucoup la crème derrière, après à la douche, parce qu'il n'y aura pas cet effet de tiraillement. Donc, si on le regarde sur le long terme, on est sur de l'économie. Mais ce n'est pas forcément, quand on a un budget serré, ce n'est pas forcément ce que l'on regarde. Donc, ça commence à se développer. Mais il y a des freins qui sont des freins économiques et des freins de peur.
C'est comme pour les producteurs dans
cet
aspect-là.
Tout
bien sûr, on est pour, mais au moment d'agir, il y en a beaucoup qui réduisent.
C'est compliqué, c'est ce que l'on comprend.
Non, c'est pas ça. Après, c'est une question, comme je dis souvent aussi, de choix. On supprime sur autre chose. Et puis voilà, et on laisse la place en budget pour ça. Mais ça, après, c'est un autre sujet. Et je ne veux absolument pas aller dans ça. Mais pour moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est quand même une belle passion. Mais ça fait un peu comme un, alors vous allez me dire que c'est peut-être trop, mais un peu comme un art des matières, un art de voir, de senteur. Et de réfléchir et d'amener quelque chose de neuf.
Oui, c'est un peu, c'est un peu un art.
Quelle phrase de fin vous feriez, vous auriez envie là que l'auditeur retienne et que vous avez envie de transmettre, que ce soit l'entrepreneuriat, produits naturels pas forcément, mais sur là votre parcours avec passion et puis vous êtes très sincère, vraiment
pas
super.
Phrase, un mot.
Allez-y.
Osez.
Oh, ça, c'est le mot qui me parle.
Parce que vraiment...
j'en reviens, bien sûr.
J'ai un regret. J'aurais dû le faire plus tôt.
Attendez, chers auditeurs, avant de finir, j'aurais pu le faire plus tôt. Donc, vous voyez, cette réflexion, je vous rassure, on l'a tous eue. Et là, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, transmettez ça à vos amis, vos frères, vos petits-enfants et autres. Mais ne pas attendre, effectivement. On peut le faire plus tôt, mais au moins le faire par rapport à ça. En tout cas, merci infiniment de
avec
cet
plaisir.
Échange. Donc, mon
merci
beau savon, BO.
Ah,
avec
et
plaisir.
L'invitation.
BO, donc. Bien sous cet angle-là, et donc le site web, mais également sur Instagram, vous aurez effectivement tous les éléments. En tout cas, chers auditeurs, à la semaine prochaine, et merci pour tout. Nickel.